L'actualité francophone en Belgique, la moralisation de la vie politique peine à s'imposer. La Suisse, après la démission du ministre des Affaires étrangères, la question régionale sera au centre de la course à sa succession. En Afrique, les violences dans la région du Kasaï, en République démocratique du Congo. La France, rebondissement dans l'affaire Grégory, un enfant assassiné il y a 33 ans. Le coupable n'a jamais été identifié, mais des complices sont sur le point de l'être. Le Canada, les services de l'immigration débordés par l'accueil des réfugiés. D'abord, les personnalités de la semaine en Belgique. Marie Van Kustem, coup de projecteur sur des réalisatrices de cinéma.
Oui, elles sont 125 à être passées devant l'objectif et avoir pris la pause pour lancer un appel. Où sont les femmes réalisatrices dans le cinéma de chez nous? L'écrasante domination masculine dans la profession est apparue on ne peut plus flagrante à l'occasion de la photo officielle qui a été réalisée pour les 50 ans du cinéma belge il y a 2 semaines. 35 hommes pour 6 femmes, un déséquilibre qui ne se creuse qu'à la sortie des écoles de cinéma. Aujourd'hui, seuls 15% des réalisateurs sont des femmes et ces femmes-là veulent que cela change.
L'homme de la semaine en France, une rockstar que l'on n'attendait pas, un musicien de la garde républicaine, le maréchal des logis-chefs Jean-Michel Mekil. Il a 43 ans et il a volé la vedette aux joueurs de foot mardi soir, avant France-Angleterre avec sa reprise de Don't Look Back in Anger d'Oasis, en hommage aux victimes des attentats de Manchester et Londres. Les images de ce militaire, en uniforme, cheveux courts, portant des lunettes, muni d'une oreillette et d'un petit micro et avec une guitare électrique, ces images ont fait le tour du monde sur les réseaux sociaux. La personnalité africaine de la semaine, Anne Cantner, c'est Saïf al-Islam Kadhafi.
Oui, le fils de l'ancien dirigeant libyen a été libéré par la milice qui le retenait à Zintan depuis 2011. Longtemps, il a été présenté comme le dauphin de Muammar Kadhafi. Et aujourd'hui encore, à 45 ans, il se voit en leader politique. Il serait même le seul capable de pacifier la Libye, selon certains partis. Mais pour l'instant, Saïf al-Islam Kadhafi se cache. Il est loin d'être soutenu par tous les Libyens. Et surtout, il est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale.
En Suisse, Pierre Anchoffa, votre ministre des Affaires étrangères a créé la surprise cette semaine.
Didier Burkhalter a pris tout le monde de court, 57 ans seulement, conseiller fédéral depuis 8 ans. Il a annoncé sa démission alors que rien ne l'a laissé présager, si ce n'est peut-être une certaine lassitude face à la difficulté de faire avancer le dossier européen. Didier Burkhalter s'est contenté de mettre en avant son besoin de faire autre chose. De son passage au gouvernement, on retiendra surtout son année présidentielle en 2014, quand il présidait également l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, sa médiation dans le conflit ukrainien. Son rôle de facilitateur sur le nucléaire iranien ont rendu une aura internationale à la Suisse.
Au Canada, Benoît Audet, votre personnalité de la semaine est un joueur de hockey sur glace.
Oui, Sidney Crosby, le capitaine des Penguins de Pittsburgh de la Ligue nationale de hockey. Il a remporté la 3e Coupe Stanley de son illustre carrière cette semaine. La Coupe Stanley est remise chaque année aux gagnants du championnat nord-américain de hockey sur glace. Sidney Crosby est une super vedette au Canada en plus de ses Coupes Stanley. Il a aussi remporté 2 médailles d'or olympiques. À 29 ans, sa place parmi les plus grands est déjà assurée.
Cette semaine, l'actualité africaine a été marquée par les violences au Kasaï, en République démocratique du Congo, Anne Cantner.
Oui, le Parlement européen demande une enquête indépendante sur les graves violences qui secouent cette région du centre du pays depuis des mois. La rébellion a commencé en août dernier après la mort du chef coutumier Kamuina Nsapu et la répression a été brutale. Près d'un million de personnes ont dû fuir les violences. Au moins 42 fosses communes ont été repérées et on compte aujourd'hui des centaines, peut-être des milliers de morts, dont 2 experts des Nations Unies. Le procès de 2 de leurs assassins présumés s'est d'ailleurs ouvert cette semaine et déjà les avocats dénoncent des pressions de la part des autorités.
Anne Cantner, les autorités congolaises qui ont tout de suite accusé cette fameuse milice d'être responsable de l'assassinat des experts.
Oui, Kinshasa s'appuie sur une vidéo de l'exécution des enquêteurs de l'ONU pour pointer du doigt les miliciens Kamuina Nsapu. Mais après avoir recueilli différentes analyses, la correspondante de RFI en République démocratique du Congo a révélé des éléments troublants qui mettent en cause la version officielle. Les agresseurs y parlent par exemple des langues méprisées par les miliciens qu'ils considèrent comme des langues de l'ennemi. Grâce à des documents confidentiels, la correspondante de RFI montre aussi que les Nations Unies suivent la situation de près depuis le début des violences. Pourtant, les casques bleus n'ont été déployés qu'en décembre dans la région. Sur le terrain, leur travail a été entravé, mais publiquement, la mission de l'ONU fait profil bas. RFI publie un document dans lequel, 6 mois avant la crise, cette mission s'engageait à traiter les exactions de l'armée congolaise de manière confidentielle, avec l'aval du Conseil de sécurité.
En Suisse, Pierre-Henri Chauffat, après la démission surprise de votre ministre des Affaires étrangères, tout le monde s'est très vite concentré sur la course à la succession.
Ce sera assurément le feuilleton de l'été. L'Assemblée fédérale, qui réunit les deux chambres du Parlement, élira un nouveau ou une nouvelle conseillère fédérale le 20 septembre prochain. À ce stade, aucune force politique ne conteste la légitimité du Parti libéral radical sur ce siège. En effet, dans notre fameux système de concordance, les grands partis sont représentés au gouvernement selon leur force électorale.
Pierre, ce sont donc d'autres critères qui vont déterminer le choix du Parlement ?
Oui, au-delà bien sûr des compétences politiques requises, dont la capacité à nouer des compromis, mais être du bon parti, du bon sexe et de la bonne région au bon moment, voilà le mantra de ceux qui aspirent au Conseil fédéral en Suisse. Et comme les ministres en place sont seuls à décider de la date de leur départ, cela ne leur facilite pas la tâche. Au sein du collège, il ne reste aujourd'hui que 2 femmes sur 7 membres, mais le Parti libéral radical n'en fera sans doute pas une priorité pour cette élection, sachant qu'il dispose de davantage de candidates potentielles dans la partie germanophone du pays.
Et du coup, la question régionale sera cruciale.
Oui, en effet, la candidature sera latine, a dit le parti, comprenez soit romande, soit en provenance de la Suisse italienne. Les voix sont nombreuses pour souligner que le tour des Tessinois est enfin venu. Cela fait près de 20 ans que cette région n'est plus représentée au gouvernement. Une région qui se sent toujours plus marginalisée en Suisse et qui marque, votation après votation, sa défiance à l'égard des autorités fédérales. Élire un Tessinois serait donc un signal politique, un symbole fort du respect des minorités dans cette Suisse multilingue.
En Belgique, Marie Van Cutsem, le Parti socialiste s'apprête à vivre une petite révolution.
Oui, il n'avait plus le choix, acculé, ébranlé par les scandales à répétition que l'on appelle désormais les affaires du PS, des pratiques douteuses impliquant des élus socialistes présents également dans des conseils d'administration de sociétés plus ou moins privées, bénéficiant de rémunérations astronomiques et souvent injustifiées pour des prestations parfois fantômes. Bref, comme en France, les appels à une moralisation de la vie politique se sont multipliés, venus chez nous des plus jeunes militants du PS, une colère que le ministre-président wallon Paul Magnette ne pouvait plus ignorer.
Le PS vit aujourd'hui, il faut le reconnaître, une crise profonde, malheureusement. Mais je crois que nous devons réagir, réagir vite et fort. J'ai entendu moi aussi le message des jeunes, je le partage totalement. Les militants ont envoyé un message très clair lors de notre dernière réunion. Ils ont dit on veut le décumul, c'est fini d'être député et bourgmestre. On veut le voter maintenant, on veut que ce soit d'application non pas en 2024 comme certains l'avaient proposé, mais que ce soit d'application dès les prochaines élections. Et je suis pleinement d'accord avec cette thèse. Il faut absolument que nous votions des réformes radicales comme celle-ci très rapidement et que nous montrions notre volonté de réformer en profondeur.
Une réforme confirmée par le président du PS, Élodie Rupo, et qui fait déjà grincer des dents au sein même du parti, c'est que chez nous, les cumuls de mandats font partie depuis toujours du paysage politique, tout parti confondu, exception faite d'écolo. Les partis centristes et de droite ont d'ailleurs déclaré ne pas vouloir suivre cette voie du décumul intégral vers un mandat unique. Les résistances au changement sont fortes, mais la pression de l'opinion publique l'est tout autant. De nombreux militants viennent de se regrouper sous un même label qui s'appelle « Groupons-nous et demain ». Chez les socialistes, le grand chambardement est annoncé pour le début de l'été.
En France, les rebondissements de l'affaire Grégory Villemain, cet enfant de 4 ans retrouvé mort, pieds et poings liés dans une rivière des Vosges, c'était en 1984. 33 ans après ce drame, des membres de la famille Villemain ont été interpellés cette semaine, puis mis en examen notamment pour enlèvement, séquestration suivie de mort. Cette affaire n'a jamais été abandonnée par la justice. Ces derniers mois, les gendarmes ont réexaminé des milliers de pièces du dossier, repris toutes les expertises en utilisant les dernières techniques de la science et de l'informatique en matière criminelle. Les gendarmes veulent identifier un mystérieux corbeau ayant revendiqué le meurtre en invoquant une vengeance familiale. familiale. Il y a plus de 30 ans, c'est un cousin du père de Grégory, Bernard Laroche, qui est d'abord inculpé d'assassinat. Un temps incarcéré, il est remis en liberté. Convaincu de sa culpabilité, Jean-Marie Villemain, le père de Grégory, abat Bernard Laroche d'un coup de fusil de chasse. Nous sommes en 1985. Quelques années plus tard, c'est la mère de Grégory qui est soupçonnée, puis totalement innocenté. Après toutes ces années d'enquête chaotique, l'affaire Grégory est, semble-t-il, sur la voie de l'élucidation. Un drame fait de haine familiale, de jalousie, de rancœur, de secrets, une conspiration du silence. On sait désormais que plusieurs personnes du clan familial ont concouru à la réalisation de ce crime. Le Canada accueille un nombre important de réfugiés chaque année. La commission de l'immigration et du statut de réfugié, chargée d'étudier les demandes, est débordée. Les chiffres, Benoît Audet, sont impressionnants.
Oui, il y a actuellement un nombre important de dossiers en attente, plus de 28 000 selon le dernier bilan. C'est une augmentation de près de 70 % si on compare à 2015. Les reports d'audience se multiplient. Par exemple, en avril dernier, plus de la moitié des audiences n'ont pas eu lieu dans les délais requis.
Et les gens qui interviennent auprès des réfugiés tirent la sonnette d'alarme, Benoît.
Oui, les avocats en immigration, entre autres, comme Stéphanie Valois, on l'écoute.
Puis là, quand on sait que le dossier est remis, ça cause beaucoup de stress, beaucoup de détresse, je dirais. Le fait d'être retardé, ça retarde tout le processus d'intégration et aussi le processus de réunification familiale.
Ces avocats réclament davantage de ressources pour la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.
Benoît Audet, qu'est-ce qui explique cette accumulation de retard?
Les demandes d'asile augmentent sans cesse au Canada. Depuis 2013, il y a eu un afflux important de migrants clandestins à la frontière canadienne, entre autres l'hiver dernier. Le gouvernement fédéral a commencé à prendre des mesures. On traite plus rapidement les demandes d'asile en provenance de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan. Mais il faudra probablement en faire plus. Le Canada est perçu comme une terre d'accueil et rien ne nous permet de croire que la situation va se résorber au cours des prochains mois.
C'était l'actualité francophone. À la semaine prochaine.